Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous continuons dans le traité des verbos incarnato, le verbe incarné, avec la question 46 que nous avons déjà bien commencé. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit au dernier cours, cette question 46 de la tertia pars, la troisième partie de la somme, est certainement une des plus belles questions de la somme. Elle est très utile pour la méditation, surtout pendant le temps de la semaine sainte et la passion. Nous en sommes à l'article 10. Donc vous avez pas mal de choses sur le polycopié. Sur le polycopié, c'est autour de la page 151 que vous trouverez un résumé des textes de saint Thomas. Donc voyons l'article 10 de la question 46 de la tertia pars, le lieu de la passion. Saint Thomas d'Aquin va expliquer pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir à Jérusalem. Donc il va citer saint Luc, dans son évangile au chapitre 13, verset 33, « Il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » Mais le Christ était prophète, il convenait donc qu'il souffre à Jérusalem. Donc, le Christ a souffert non seulement au temps approprié, mais il a souffert aussi au lieu qui convenait. Donc, saint Thomas va expliquer pourquoi il convenait pour le Christ de mourir et de souffrir à Jérusalem. Il va donner pour cela quatre raisons. On va les méditer. Première raison, il convenait donc au plus haut point que le Christ souffre à Jérusalem. Premièrement, parce que Jérusalem était le lieu choisi par Dieu pour qu'on lui offre les sacrifices. Pourquoi ? Parce que c'était à Jérusalem qu'il y avait le temple, le grand temple de Jérusalem, construit par Salomon, le fils de David. Le grand temple était construit à Jérusalem. Et ces sacrifices figuratifs de l'Ancien Testament symbolisaient la passion du Christ, sacrifice véritable. Donc, on voit très bien une certaine évolution dans les sacrifices. Je pense que la première référence qui explique l'importance des sacrifices, on va la trouver par exemple avec ce qui s'est passé en fin de la période des Juifs en Égypte, quand ils étaient maintenus en esclavage sous le Pharaon. Et donc Moïse va demander, sous l'ordre de Dieu, à tous les Juifs de prendre un agneau, de l'immoler, et avec le sang de l'agneau, avant d'en manger la chair rôtie, avec le sang de l'agneau, de badigeonner le pourtour de la porte d'entrée de la maison, de telle façon que lorsque l'ange exterminateur allait venir pour tuer par ordre de Dieu le premier-né de chaque famille, et bien évidemment l'ange, voyant le sang de l'agneau sur la porte principale des maisons des Juifs, passerait ces maisons et ne s'attaquerait qu'aux familles des Égyptiens. Et donc ce sang de l'agneau représentait le sang du nouvel agneau pascal, évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite on retrouve tous les sacrifices habituels au temple de Jérusalem. En général, l'agneau était, ou le bouc était choisi comme animal de sacrifice. Donc le grand prêtre ou un des prêtres séparait le corps et le sang de l'agneau, et avec le sang de l'agneau il en aspergeait la foule avec une branche d'hysope. Et c'était encore une annonce du sang rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, sang qui allait effacer les péchés. Donc ces sacrifices figuratifs symbolisaient bien la passion du Christ, sacrifice véritable. Saint Thomas va citer Saint Paul, il s'est livré lui-même comme une victime et une oblation d'agréable odeur. Donc c'est en Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Donc selon Saint Bède le Vénérable, tandis qu'on s'approche, qu'approchait l'heure de la Passion, le Seigneur voulut s'approcher du lieu de la Passion, c'est-à-dire de Jérusalem, où il arriva 6 jours avant la Pâque, le 6e jour de la lune, selon la loi, au lieu de son immolation. Donc c'est la première raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a voulu souffrir et mourir à Jérusalem. Deuxième raison, parce que la vertu de sa Passion devait se répandre dans le monde entier. Le Christ a voulu souffrir au centre de la terre habitable, Jérusalem. Jérusalem était... Avant, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, le centre du monde littéralement. Avec l'arrivée de Saint Pierre à Rome, Rome est devenu le centre du monde. Donc, Jérusalem, surtout à l'époque, était considérée comme le centre du monde. Troisième raison. Ce lieu convenait au plus haut point à l'humilité du Christ, lui qui avait choisi le genre de mort le plus honteux, il ne devait pas refuser de souffrir la honte dans un lieu aussi fréquenté. Saint Léon dit, celui qui avait assumé la condition de l'esclave choisit à l'avance Bethléem pour sa naissance, Jérusalem pour sa passion. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc voulu choisir un lieu très humble, complètement inconnu, Bethléem pour sa naissance, mais au contraire, il a voulu mourir dans un lieu public, devant des milliers de personnes à Jérusalem. Quatrième raison, notre Seigneur a voulu mourir à Jérusalem où résidaient les chefs du peuple juif pour montrer qu'ils étaient responsables de l'iniquité commise par ces meurtriers. Il cite les actes des apôtres de Saint-Luc qui se sont ligués dans cette ville de Jérusalem contre ton serviteur Jésus, consacré par ton onction Hérode et Ponce Pilate avec les païens et les peuples d'Israël. Donc je répète ces quatre raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ choisit Jérusalem pour souffrir et mourir. Premièrement, parce que c'est le lieu choisi par Dieu pour qu'on lui offre les sacrifices. Deuxièmement, parce que Jérusalem était au centre du monde. Troisièmement, parce que Jérusalem était le lieu qui convenait au plus haut point à l'humilité du Christ, qui n'a pas refusé de souffrir la mort honteuse de l'esclave dans un lieu aussi fréquenté. Enfin, quatrièmement, notre Seigneur a voulu mourir à Jérusalem où résidaient les chefs du peuple juif pour bien montrer qu'ils étaient responsables de l'iniquité commise par ces meurtriers. Alors ensuite, Saint Thomas donc, développe ce qu'il vient de dire dans les réponses aux objections. Ça, c'est la réponse à la deuxième objection. Le Christ, dit-il, a souffert non pas dans le temple ou dans la ville de Jérusalem, mais hors des portes. Il a souffert au Golgotha, qui est à peu près à 500 mètres des murailles de Jérusalem. Alors, trois raisons pour lesquelles notre Seigneur a souffert hors du temple. Voilà ce que dit Saint Thomas. D'abord, pour que la réalité réponde à la figure. Pourquoi ? Parce que le taureau et le bouc, offerts dans les sacrifices les plus solennels pour l'expiation de tout le peuple, étaient brûlés hors du camp. On trouve ça aussi dans l'Épître aux Hébreux de Saint Paul, chapitre 13. Les animaux dont le sang est porté par le grand prêtre dans le sanctuaire ont leur corps brûlé hors du camp. Et c'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte de Jérusalem. Deuxièmement, notre Seigneur a souffert hors de la ville de Jérusalem afin de nous enseigner à quitter la vie du monde pour aller au Christ, dit Saint Paul aux Hébreux. Sortons hors du camp en portant son opprobre. Troisième raison pour laquelle notre Seigneur a voulu mourir à Jérusalem. Et Saint Thomas va citer Saint Jean Chrysostome. Le Seigneur n'a pas voulu souffrir sur Saint-Ouen ni dans un temple juif pour empêcher les juifs d'accaparer ce sacrifice du salut en faisant croire qu'il avait été offert seulement pour leur peuple. Aussi a-t-il souffert hors de la ville, hors des remparts, pour vous faire savoir que le sacrifice a été offert par tous, puisqu'il est l'oblation de toute la terre et la purification de tous. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Cependant, n'oublions pas ce que j'ai expliqué souvent déjà, que notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit mort pour tous les hommes, de volonté antécédente, de volonté conséquente, en fait, ne va mourir que pour ceux qui vont utiliser les fruits de ce sacrifice rédempteur, c'est-à-dire ceux qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité. La vertu de charité est donnée d'abord par le baptême. Donc quelqu'un qui n'est pas baptisé n'a pas cette vertu de charité et donc ne peut pas être uni à notre Seigneur Jésus-Christ. Sauf dans un cas très particulier, le baptême de désir, le baptême de sang. Donc à ce moment-là, le baptême d'eau est remplacé par le baptême de désir ou le baptême de sang, qui sont des actes de charité parfaite et qui donc donnent la vertu de charité. Alors, un autre texte intéressant qu'on trouve dans la troisième objection, c'est Saint Jérôme qui parle. Quelqu'un a soutenu que le calvaire, ou lieu du crâne, était celui où fut enterré Adam, et aurait été ainsi appelé parce que la tête du premier homme y aurait été ensevelie. Interprétation séduisante qui flatte l'oreille du peuple, mais qui n'est pas exacte d'après Saint Jérôme. En effet, c'est en dehors de la ville, hors des portes, que se trouvent les lieux où l'on tranchait la tête des condamnés, et ils ont pris le nom de lieu du crâne, c'est-à-dire lieu des décapités. C'est là que fut crucifié Jésus, pour que là où précédemment se trouvait le champ des condamnés, se dresse l'étendard du martyr. Quant à Adam, il fut enseveli près d'Hébron, comme on le lit dans le livre de Josué. Il faut préciser que d'autres pères ne suivent pas Saint Jérôme dans ce domaine et pensent toujours que Adam a été, le crâne d'Adam était enseveli sous le Golgotha. Mais enfin, ça n'a jamais été prouvé historiquement, on n'a jamais retrouvé la tombe. Donc Saint Thomas d'Aquin va préciser, le Christ devait être crucifié dans le terrain commun des condamnés, plutôt qu'auprès du tombeau d'Adam, pour montrer que la croix du Christ guérissait non seulement le péché personnel d'Adam, mais aussi le péché du monde entier. Et comme on voit très bien dans l'esprit de Saint Thomas comment tous ces faits de l'Ancien Testament préparent et préviennent le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle le sens allégorique. J'ai déjà expliqué tout ça, donc j'y reviens pas. Donc le sens allégorique, c'est ça. C'est le Nouveau Testament qui amène c'est un pont en quelque sorte qui amène, je veux dire, l'Ancien Testament est un pont qui amène au Nouveau Testament. Autre article magnifique, article 11, la question 46, toujours dans la tertia pars, convenait-il que le Christ soit crucifié avec des bandits? Alors, saint Ambroise donne une introduction à cet article, la passion du Seigneur a des imitateurs mais n'a pas d'ego. Et ensuite, saint Thomas va citer Isaïe, prophète Isaïe. Notre Seigneur, le Messie, a été compté parmi les criminels. Donc, par rapport à l'intention des Juifs, c'est Saint Jean Chrysostome qui fait remarquer que les Juifs crucifièrent deux bandits de part et d'autre de notre Seigneur pour lui faire partager leur honte. Mais, dit Saint Thomas, ce n'est pas ce qui s'est produit, car on ne parle plus de bandits, tandis que la croix du Christ est honorée partout. Les rois déposant les diadèmes prennent la croix sur la pourpre, sur les diadèmes, sur les arbres, sur l'autel. Dans tout l'univers brille la croix. Alors, saint Thomas va développer, donc en se posant la question, par rapport au plan divin, le Christ a été crucifié avec des bandits pour trois raisons. Donc, première raison, il cite saint Jérôme. De même que pour nous le Christ s'est fait malédiction sur la croix, il a été crucifié comme un criminel entre des criminels pour le salut de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux bandits représentent tous les pécheurs en général. Et tous les pécheurs étant tous des bandits, nous, les pécheurs sont des bandits, hein, nous sommes des bandits devant notre Seigneur Jésus-Christ quand nous offensons Dieu, parce que on vole à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, on vole sa propriété, en quelque sorte, puisqu'il est propriétaire de nos âmes. Et donc nous agissons comme un bandit à chaque fois que nous commettons une faute grave. Deuxième raison, ici de Saint Léon le Grand, deux bandits furent crucifiés, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, pour que même le spectacle du gibet montre la séparation qui sera opérée entre tous les hommes au jour du jugement par le Christ. On touche à un très grand mystère. Donc vous avez deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche, ils sont tous les deux à égale distance de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'un va être sauvé, non seulement va être sauvé, mais va être le premier à profiter des mérites de la Passion, Saint Dismas, le bon larron, et l'autre, le mauvais larron, qui s'appelait Gestas, lui, ne sera pas sauvé. Pour bien montrer que
le bon Dieu ne donne pas les mêmes grâces à tout le monde et que les gens gardent leur libre arbitre pour accepter ou refuser la grâce du bon Dieu. Et donc, Dieu, pour qui il n'y a pas de futur, mais un éternel présent, donc sachant très bien que certaines personnes vont mal répondre à sa grâce, eh bien, à certains va donner une grâce efficace, c'est le cas de la grâce reçue par Saint Dismas, et d'autres ne vont recevoir qu'une grâce suffisante, à savoir Gestas. Ensuite, Saint Thomas cite Saint Augustin, si vous faites attention, la croix elle-même est un tribunal. Le juge, en effet, siégeait au milieu. L'un des voleurs qui a cru a été libéré, l'autre qui a outragé le Seigneur a été condamné. Il manifestait déjà ce qu'il ferait un jour à l'égard des vivants et des morts, en plaçant les uns à sa droite et les autres à sa gauche. On voit très bien ça dans le grand récit de la fin des temps qu'on trouve à la fin de Saint Matthieu. C'est Saint Augustin qui fait remarquer que, avec humour, que Saint Dismas, le bon larron, a passé sa vie à voler, et que juste avant de mourir, il a trouvé le moyen de voler le ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle le voleur de paradis. On dit que c'est le saint patron des voleurs, mais il y en a du travail, surtout en France. Mais Saint Augustin précise, dans son sermon sur le bon larron, il précise que le bon Dieu a permis qu'il y ait un bon larron, pour que personne ne puisse tomber dans le désespoir, mais qu'il n'y en a qu'un seul, pour qu'on évite la présomption. Troisième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié avec des bandits, cette fois-ci, Saint Thomas va citer Saint Hilaire. À sa droite et à sa gauche sont crucifiés deux bandits qui montrent que la totalité du genre humain est appelée au mystère de la passion du Seigneur. Le partage des fidèles et des infidèles se fait entre la droite et la gauche. Aussi, le bandit placé à droite est-il sauvé par la justification de la foi. On retrouve un peu la même idée, légèrement transformée. Donc encore une fois, les deux larrons représentent l'intégralité du genre humain, les bons et les mauvais, ceux qui acceptent notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui le refusent, les amis de notre Seigneur Jésus-Christ et ses ennemis. Quatrième raison, Saint Bède le Vénérable. Les bandits crucifiés avec le Seigneur représentent ceux qui, sous la foi et la confession du Christ, subissent le combat du martyr ou embrassent une forme de vie plus austère. Ceux qui agissent pour la gloire éternelle sont figurés par les bandits de droite, mais ceux qui agissent pour recevoir la louange des hommes imitent le bandit de gauche dans son esprit et dans ses actes. Donc, Saint Dismas, le bon larron, représente tous ceux qui vont centrer leur vie sur le Christ, donc la société théocentrique, et au contraire, le mauvais larron représente tous ceux qui vont centrer leur vie de tous les jours, ou leur système politique, sur l'homme. Donc, le mauvais larron représente l'humanisme, le rationalisme moderne, le laïcisme révolutionnaire et républicain, en France au moins. Donc je répète, c'est pour vous aider à bien comprendre, à bien oublier, pas trop oublier ce que j'essaie de vous expliquer avec saint Thomas. Donc le Christ a été crucifié avec des bandits pour trois raisons. Donc d'abord parce que le Christ s'est fait malédiction sur la croix, il a été crucifié donc comme un criminel entre des criminels pour le salut de tous. Deuxième raison, pour que le spectacle du gibet montre la séparation qui sera opérée entre tous les hommes au jour du jugement du Christ, par le Christ, entre les bons et les mauvais. Troisième raison, les deux larrons représentent la totalité du genre humain appelé à la mystère de la passion du Seigneur. Et quatrième raison, les bandits crucifiés représentent tous ceux qui, sous la foi et la confession de Christ, subissent le combat du martyr et ceux qui agissent pour la gloire éternelle, représentés par le bon larron, et ceux qui agissent pour recevoir la louange des hommes, représentés par le mauvais larron. Dans les réponses aux objections, Saint Thomas précise « Le Christ n'était pas tenu à la mort comme un dû, mais il a subi la mort volontairement afin de vaincre la mort par sa puissance. » Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, n'était pas tenu de mourir, parce qu'un Dieu est éternel. Bon. De même, la mort est une conséquence du péché originel. Or, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas commis le péché originel. Mais notre Seigneur, dit saint Thomas, a voulu être compté avec des gens iniques afin de détruire l'iniquité par sa puissance. Et saint Jean Chrysostome a une phrase magnifique sur le sujet, voilà ce qu'il dit. Convertir le bandit sur la croix et l'introduire au paradis, ce ne fut pas une œuvre moins grande que de briser les rochers. Passons à l'article 12. La passion du Christ doit-elle être attribuée à sa divinité? Donc c'est une question plus philosophique. Il cite en réponse à cette question, donc saint Thomas d'Aquin qui parle, en citant saint Athanase, « Le Verbe demeuré Dieu par nature est impassible, c'est qu'il ne peut pas souffrir. Ce qui est impassible ne peut souffrir, donc la passion du Christ ne se rattachait pas à sa divinité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert sa passion en tant qu'homme et pas en tant que Dieu. Mais comme la nature humaine et la nature divine étaient dans la même personne, puisqu'il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, donc on peut dire que la personne du Christ a souffert la passion. Bon, on peut dire donc que la personne du Christ a souffert la passion, on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort dans sa passion, mais on ne peut pas dire que Dieu est mort dans la passion. Pourquoi? Parce que la divinité ne peut pas mourir. Donc l'union de la nature humaine et de la nature divine s'est faite dans la personne, mais les natures sont restées distinctes. Donc la nature humaine et la nature divine sont complètement unies en notre Seigneur Jésus-Christ, mais non mélangées. J'ai expliqué ça souvent. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il n'est pas une espèce de mélange hybride entre l'humanité et la divinité. Donc c'est pourquoi il faut attribuer la passion à la personne, donc au suppôt de la nature divine, non pas en raison de cette nature qui est impassible, mais en raison de la nature humaine. Donc, il cite saint Cyril, « Si quelqu'un refuse de confesser que le Verbe de Dieu a souffert et a été crucifié dans sa chair, qu'il soit anathème. » Donc la passion du Christ appartient donc au suppôt de la nature divine, en raison de la nature passible qu'il a assumée, non en raison de la nature divine qui est impassible. Notre Seigneur ne pouvait pas souffrir en tant que Dieu, parce que l'impassibilité est incompatible avec l'éternité divine. Je veux dire, la passibilité, pardon, la souffrance est incompatible avec la nature divine. Donc, il est impassible en tant que Dieu, passible en tant qu'homme. Passible, ça veut dire qu'il peut souffrir. Alors, passons maintenant à la question 47, sur la cause efficiente de la passion, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué la passion? Donc il y a 6 questions. Je vous les lis pour que vous compreniez bien le plan de saint Thomas d'Aquin. Donc la question 47 de la tertia pars sur la cause efficiente de la passion. Premier article, le Christ a-t-il été mort par autrui, par lui-même? Deuxième article, pour quel motif s'est-il livré à la passion? Troisième article, est-ce le Père qui l'a livré à la passion? Quatrième article, convenait-il qu'il souffre par la main des païens, ou plutôt des juifs? Et cinquième article, ses meurtriers l'ont-ils connu? Sixième article, le péché de ses meurtriers. Une question intéressante, donc nous allons voir cela. D'abord, article 1, la question 47 de la tertia pars. Le Christ a-t-il été mis à mort par autrui ou par lui-même? Donc, le Christ annoncé en parlant de lui-même, c'est en Saint-Luc chapitre 18, « Après l'avoir flagellé, ils le tueront. » Donc, il y a 2 manières d'être cause d'un effet. En agissant directement pour cela, c'est de cette manière que les persécuteurs de Christ l'ont mis à mort, car ils lui ont fait subir les traitements qui devaient amener la mort avec l'intention de la lui donner. Et la mort qui s'en est suivie a été réellement produite par cette cause. Donc, les persécuteurs de Christ sont vraiment ceux qui l'ont mis à mort. Deuxièmement, indirectement, en n'empêchant pas ses effets. En ce sens, le Christ a écarté de son propre corps les coups qui lui étaient portés, mais il a voulu que sa nature corporelle succombe sous ses coups. Et on peut dire que le Christ a donné sa vie et qu'il est mort volontairement. Ensuite, saint Thomas va préciser que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait empêcher sa mort, d'abord en retenant ses ennemis de manière qu'ils n'eussent ni la volonté ni le pouvoir de le mettre à mort. Il aurait pu envoyer une demi-douzaine de légions d'or, d'anges, pour exterminer tous ses ennemis. Il ne l'a pas fait. Deuxièmement, parce que son âme avait le pouvoir de conserver la nature de sa chair, de manière qu'elle ne se combat pas sous aucune des blessures qu'on eût pu lui infliger. Son âme a eu ce pouvoir, pourquoi? Parce qu'elle était unie au Verbe de Dieu dans l'unité de la personne. Mais comme l'âme du Christ n'a pas éloigné de son propre corps le tort qu'on lui a causé, et qu'elle a voulu que sa nature corporelle succombât sous le mal qui lui était fait, on dit qu'il a de lui-même quitté sa vie et qu'il est mort volontairement. Donc on voit bien dans le texte de saint Thomas que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé son libre arbitre pour mourir librement. Quand on canonise quelqu'un qui est martyr, la première des choses qu'on vérifie, c'est qu'il a accepté son martyr. Si quelqu'un est martyr, est mort, même mort, meurt pour le Christ, est tué plus exactement en haine de la foi catholique, mais qui n'a pas manifesté, qu'il a accepté sa mort volontairement, eh bien, il ne sera pas considéré comme véritable martyr. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est mort volontairement. C'est lui qui l'a voulu. Il a voulu parce qu'il a décidé, pour obéir à son Père, par obéissance à son Père, de mourir sur la croix pour sauver les hommes de leurs péchés. Article 2, la question 47. Pour quel motif le Christ s'est-il livré à la passion? Donc saint Paul répond en Philippiens, il s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et donc il était de la plus haute convenance que le Christ ait souffert par obéissance. Première raison, donc saint Thomas d'Aquin va en donner trois. Première raison, parce que cela convenait à la justification des hommes. Il cite saint Paul aux Romains, de même que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été constitués pécheurs, de même aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont constitués justes. Un seul, Adam, a amené la catastrophe sur tous les hommes. Un seul, notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, va rattraper cette catastrophe. Donc, deuxième raison pour laquelle il était convenable que le Christ souffre par obéissance, parce que cela convenait à la réconciliation de Dieu avec les hommes. Saint Paul aux Romains, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Il s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en oblation et en sacrifice d'agréable odeur. Saint Paul aux Éphésiens. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aussi convenait-il que le sacrifice de la passion du Christ eût sa source dans l'obéissance. Donc il est beaucoup mieux de faire quelque chose de difficile par obéissance que de faire quelque chose de difficile par sa volonté propre. Enfin, troisième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ souffre par obéissance, car cela convenait à la victoire par laquelle il triompha de la mort de l'auteur de la triompha de la mort et de l'auteur de la mort. L'homme obéissant remportera la victoire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché est entré dans le monde par désobéissance et par orgueil. Donc il convenait que le péché soit rattrapé, soit effacé par l'humilité et l'obéissance. L'humilité contre l'orgueil, l'obéissance contre la désobéissance d'Adam. Alors saint Thomas va préciser dans la réponse à la première objection, deuxième objection, pardon, l'obéissance implique une contrainte à l'égard de ce qui est prescrit, mais elle suppose aussi l'acceptation volontaire à l'égard de l'accomplissement du précepte. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, a eu peur de la passion. S'il est possible, Seigneur, que ce calice passe loin de moi, dit-il pendant son agonie au Jardin des Oliviers. Mais immédiatement, il va rattraper en quelque sorte en disant, si ce calice ne peut passer loin de moi sans que je le boive, que votre volonté soit faite. Donc, humainement parlant, notre Seigneur Jésus-Christ étant normalement complètement un homme, tout homme a peur de la mort, a peur des souffrances. Notre Seigneur Jésus-Christ étant parfaitement et pleinement homme, il a donc eu peur de la mort. Mais il soumet volontairement cette crainte de la mort, qui est normal pour tout homme, à la volonté de son Père. Que votre volonté soit faite et pas la mienne. Donc, le Christ a souffert par charité, par obéissance. Il a accompli les préceptes de la charité par obéissance. Il a été obéissant par amour pour le Père qui lui donnait ses préceptes. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli les préceptes par obéissance. Il a été obéissant par amour pour le Père qui lui donnait ses préceptes. Article 3 de la question 47. Est-ce le Père qui a livré le Christ à la passion? Saint Paul aux Romains va répondre, « Dieu n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a livré pour nous tous. » Donc le Christ, dit saint Thomas, a souffert volontairement par obéissance à son Père. Donc on peut dire que Dieu le Père a livré le Christ à la passion, de trois façons, dit saint Thomas d'Aquin. D'abord, selon sa volonté éternelle, il a ordonné par avance la passion du Christ à la libération du genre humain. Isaïe disait, le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Donc pour rattraper la gravité du péché, le péché qui est d'une gravité infinie contre Dieu, eh bien Dieu le Père a ordonné la passion de son divin Fils pour libérer le genre humain. Deuxièmement, il lui a inspiré la volonté de souffrir pour nous en lui infusant la charité. Il s'est livré au sacrifice parce qu'il l'a voulu. Et enfin, il ne l'a pas mis à l'abri de la passion, mais l'a abandonné à ses persécuteurs. Et on voit très bien en saint Matthieu, le Christ qui disait, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Dieu a donc, selon saint Augustin, Dieu a abandonné le Christ à ses persécuteurs. Pour vous aider à bien comprendre l'esprit de saint Thomas, je voudrais vous lire le chapitre 53 d'Isaïe. Donc c'est ce chapitre 53 que cite souvent saint Thomas d'Aquin dans son traité sur la passion que nous sommes en train d'étudier actuellement. Et c'est ce chapitre 53 qui prédit la passion du Messie. Voilà le texte. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il sera exalté, souverainement élevé. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. Ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses. Devant lui les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce que nous avons entendu? À qui le bras de Yahvé a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Pardon. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, familier de la souffance, comme un objet devant lequel on se voile la face, en butte au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il s'est chargé, et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie. Et Dieu Yahvé a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, à la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement. Et parmi ses contemporains qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants et que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants et dans sa mort il est avec le riche alors qu'il n'a pas commis d'injustice et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands, il partagera le butin avec les forts. Parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. Donc saint Thomas précise, dans la réponse à la deuxième objection, en tant que Dieu, le Christ s'est livré lui-même à la mort par le même vouloir et la même action par lesquels le Père le livra. Mais en tant qu'homme, le Christ s'est livré lui-même par un vouloir que son Père inspirait. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc mort volontairement. Question 47, article 4. Convenait-il que le Christ souffre de la part des païens ? Donc saint Thomas va citer saint Matthieu chapitre 20, « Ils le livreront aux païens pour qu'ils soient bafoués, flagellés et crucifiés. » Donc il convenait que le Christ commence à souffrir de la part des juifs et ensuite les juifs le livrant aux païens, que sa passion soit achevée par ceux-ci. N'oubliez pas que les juifs avaient perdu le jus gladii, c'est-à-dire le pouvoir de condamner quelqu'un à mort. Et donc il fallait qu'il passe par l'autorité du gouverneur romain pour pouvoir faire condamner quelqu'un à mort. Donc les juifs sont ceux qui ont livré notre Seigneur Jésus-Christ à la mort, mais les Romains, Pilate, est celui qui a fait exécuter la sentence. Donc il n'y a pas que la responsabilité des juifs, il y a celle des païens aussi, et celle des gentils aussi. N'oublions pas que nous tous, qui sommes les descendants des gentils de l'ancien, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes responsables des souffrances et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ par le péché. Et certainement, je vous l'ai déjà dit, mais ça je pense que c'est très important à comprendre, que Dieu souffre plus du péché mortel commis par un de ses amis, baptisé, enfant de Dieu par le baptême, que du même péché commis par ses ennemis. Je vous rappelle, je pense que c'est utile de rappeler ces choses actuellement, que l'antisémitisme en tant que tel est condamné par l'Église. On n'a pas le droit d'être contre les juifs parce qu'ils sont juifs. De même qu'on n'est pas le droit d'être contre les jaunes parce qu'ils sont jaunes, contre les noirs parce qu'ils sont noirs. Donc les juifs, les jaunes, les noirs sont tous, les blancs aussi, sont tous des créatures de Dieu. Ils ont tous une âme. Ils ont tous une âme à sauver. Et tous, les blancs, les jaunes, les noirs, les catholiques, les bouddhistes, les païens, les juifs, tous doivent sauver leurs âmes. Mais on ne peut sauver son âme que par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est l'unique nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et donc il faut encore une fois faire attention de ne pas vouloir systématiquement mettre toute la responsabilité sur les juifs en oubliant que les catholiques ont une responsabilité encore plus grave devant Dieu, parce que les catholiques sont des enfants de Dieu par le baptême. Article 5, encore un article magnifique de la question 47, tertia pars, question 47, article 5. Les meurtriers du Christ l'ont-ils connu ? Alors voyons un petit peu les détails de saint Thomas d'Aquin pour toute cette partie très importante. Je vous lis au moins l'intégralité du corps de l'article. Donc saint Thomas d'Aquin, pour répondre à cette question, les meurtriers du Christ l'ont-ils connu ? Il va citer saint Paul, 1 aux Corinthiens. S'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Et saint Pierre dit aux Juifs dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, « Je sais que vous avez agi par ignorance comme vos chefs. » Et le Seigneur sur la croix demande, c'est en saint Luc, chapitre 23, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, saint Thomas va faire les distinctions qui sont très importantes, ces lignes de saint Thomas sur l'impression pas perdu une, n'ont pas pris une ride, c'est magnifique. Donc, chez les Juifs, dit saint Thomas, il y avait les grands et les petits. Les grands, qui étaient leurs chefs, ont su qu'il était le Messie promis dans la loi, car ils voyaient en lui tous les signes annoncés par les prophètes, mais ils ignoraient le mystère de sa divinité. De nouveau, il cite saint Paul, S'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Cependant, attention à cette remarque de saint Thomas, l'ignorance de ces chefs des Juifs, ce qu'il appelle les grands, n'excusait pas leur crime, puisque c'était en quelque manière une ignorance volontaire. En effet, ils voyaient les signes évidents de sa divinité, mais par haine et par jalousie, ils les prenaient à mauvais pas et ils refusèrent de croire aux paroles par lesquelles il se révélait comme le Fils de Dieu. Et ici de saint Jean, si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Si j'avais fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Et pour conclure, il cite Job. Ils ont dit à Dieu, éloignez-vous de nous ne voulons pas connaître vos chemins. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, dit l'Évangile. Quant aux petits, c'est-à-dire les gens du peuple, qui ne connaissaient pas les mystères de l'Écriture, ils ne connurent pleinement ni qu'il était le Messie, ni qu'il était le Fils de Dieu. Car bien, dit saint Thomas, bien que quelques-uns aient cru en lui, la multitude n'a pas cru. Parfois, elle se demanda si Jésus n'était pas le Messie à cause de ses nombreux miracles et de l'autorité de son enseignement. Mais ces gens furent ensuite trompés par leur chef au point qu'ils ne croyaient plus ni qu'il soit le Fils de Dieu, ni qu'il soit le Messie. Aussi Saint-Pierre leur dit-il, « Je sais que vous avez agi par ignorance comme vos chefs, dire que ceux-ci les avaient trompés. » Donc les membres du Sanhédrin, les princes des prêtres juifs, étaient bien plus responsables que les gens du peuple qui agissaient par ignorance. Alors, un peu plus bas, la réponse aux objections. Saint Thomas explique, Jésus a dit, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais il dit ensuite, maintenant ils ont vu, et ils ont haï, ils m'ont haï moi et mon Père. Cela montre que voyant les œuvres admirables du Christ, ce fut par haine qu'ils ne le reconnurent pas comme le Fils de Dieu. Ensuite, saint Thomas explique dans une phrase magnifique, « L'ignorance volontaire n'excuse pas la faute, mais l'aggrave plutôt. Car elle prouve que l'on veut si violemment accomplir le péché que l'on préfère demeurer dans l'ignorance pour ne pas éviter le péché. Et c'est pourquoi les Juifs ont péché comme ayant crucifié le Christ, non seulement comme homme, mais comme Dieu. L'ignorance volontaire, ce qu'on appelle l'ignorance crasse. On reste dans l'ignorance pour mieux pécher. » Autre article splendide, l'article 6 de la question 47 de la Tertia Pars, le péché des meurtriers du Christ. Donc, saint Thomas va répondre avec une citation de saint Matthieu. Vous dépassez la mesure de vos pères. Et saint Jean Chrysostome précise, en vérité, ils ont dépassé la mesure de leur père, car cela a tué des hommes, eux, ils ont crucifié Dieu. Il parle des Juifs. Ensuite, il va développer dans le corps de l'article. Les chefs des Juifs ont connu le Christ, et s'il y a eu chez eux l'ignorance, elle fut volontaire, et on ne peut les excuser. C'est pourquoi leur péché fut le plus grave, que l'on considère le genre de leur péché ou la malice de leur volonté. Quant aux petits, aux gens du peuple, ils ont péché très gravement, si l'on regarde le genre de leur péché, mais celui-ci est atténué quelque peu à cause de leur ignorance. Aussi, sur la parole, ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Bède nous dit-il, le Christ prie pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ayant le zèle de Dieu, mais dépourvus de connaissance. Beaucoup donc, plus excusable fut le péché des païens qui l'ont crucifié de leurs mains parce qu'ils n'avaient pas la science de la loi. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix va dire à son Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, posons-nous la question, j'explique toujours ça quand j'explique ces passages-là pendant la retraite des exercices de Saint-Ignace. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a pu dire à notre sujet, pardonnez-leur, mon Père, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient à l'imparfait. Je ne savais pas ce que je faisais auparavant. Maintenant, je sais. Surtout après une bonne retraite, après une bonne confession, une bonne communion, je sais parfaitement ce que je fais. Donc le péché de quelqu'un qui a la connaissance de la divinité du Christ, le péché de quelqu'un qui est un ami du Christ par son baptême, qui fait de lui un membre de l'Église catholique, donc on devient enfant de Dieu par le baptême, rappelez-vous. Donc le péché d'un enfant de Dieu est beaucoup plus grave que le péché de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Le péché de quelqu'un qui est créature et enfant de Dieu est beaucoup plus grave que le péché commis par quelqu'un qui n'est que créature de Dieu sans être enfant de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est créature de Dieu parce qu'il est homme, mais qui n'est pas enfant de Dieu parce qu'il n'a pas le baptême. Alors cette phrase est importante. Beaucoup plus excusable fut le péché des païens qui l'ont crucifié de leurs mains parce qu'ils n'avaient pas la science de la loi. Voyons maintenant la question 48. La manière dont la passion du Christ a produit ses effets. Donc, il y a 6 articles dans cette question numéro 48. Donc la passion du Christ a-t-elle causé notre salut par mode de mérite? Article 1. Voilà la réponse de saint Thomas d'Aquin. Le Christ lui-même a mérité le salut de ses fidèles. Il s'ensuit donc, dit saint Thomas, que le Christ, par sa passion, a mérité le salut, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ses membres. Donc tous les membres, tous les hommes qu'il a créés. Dès le début de sa conception, le Christ nous a mérité le salut éternel. Mais de notre part, il y avait certains obstacles qui nous empêchaient d'obtenir l'effet des mérites acquis précédemment. Aussi, pour écarter ces obstacles, a-t-il fallu que le Christ souffre. Donc le Christ a souffert pour rendre la charité à ceux qui voudraient bien l'utiliser. Bien entendu, quelqu'un qui refuse d'utiliser la charité du Christ ne peut pas utiliser les effets de la passion du Christ, parce que c'est la charité qui ouvre la porte. Article 2, la question 48, toujours dans la tertia pars, un article aussi très important. Tu as développé un peu plus. La passion de Christ a-t-elle causé notre salut par mode de satisfaction? Le Christ, dit saint Thomas, en souffrant, a parfaitement satisfait pour nos péchés. Donc voilà ce que précise saint Thomas. Le Christ, en souffrant par charité et par obéissance, a offert à Dieu quelque chose de plus grand que de l'exiger la compensation de toutes les offenses du genre humain. Encore une fois, le bon Dieu aurait pu nous sauver d'une autre façon. Il a voulu choisir la façon la plus, humainement parlant, la plus horrible, pour bien que nous comprenions la grandeur du péché et la grandeur de la miséricorde de Dieu pour nous. Donc, je reprends la phrase de saint Thomas, le Christ, en souffrant par charité et par obéissance, a offert à Dieu quelque chose de plus grand que ne l'exigeait la compensation de toutes les offenses du genre humain. D'abord, à cause de la grandeur de la charité de laquelle il souffrait. Deuxièmement, à cause de la dignité de la vie qu'il donnait comme satisfaction, parce que c'était la vie de celui qui était Dieu et homme. Enfin, troisièmement, à cause de l'universalité de ses souffrances, de l'acuité de sa douleur. Il meurt quand homme, Dieu. Homme uni à la divinité et donc dans sa personne qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc si Dieu pouvait mourir, il mourrait. Il ne peut pas dans sa divinité, donc il va mourir dans son humanité. C'est pourquoi la passion du Christ a été une satisfaction non seulement suffisante, mais surabondante pour les péchés du genre humain. Il est lui-même propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Puis saint Thomas va expliquer avec une phrase magnifique, « La charité du Christ souffrant a surpassé la malice de ceux qui l'ont crucifié. » Ainsi, la satisfaction offerte par le Christ dans sa passion a-t-elle été plus grande que l'offense que ses meurtriers ont commise en le tuant? C'est au point que la passion du Christ a été une satisfaction suffisante et même surabondante pour les péchés de ses meurtriers. La dignité de la chair du Christ n'est pas à estimer seulement d'après la nature de cette chair, mais aussi d'après la personne qui l'a prise. En tant qu'elle était la chair de Dieu, elle possédait une dignité infinie. Encore une fois, il faudrait lire ces phrases à genoux, littéralement, tellement elles sont belles. On se rend compte que la théologie de saint Thomas, on l'appelle la théologie pérenne, la théologie éternelle, dans le sens qu'elle est inimitable et je dirais indépassable. On ne peut pas, humainement parlant, dépasser le niveau théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'il est le prince des théologiens et le théologien officiel de l'Église catholique. On ne rappelle plus quel est le pape qui a dit que chaque article de la somme de saint Thomas d'Aquin était un miracle. Rappelez-vous, pendant le concile de Trente, au XVIe siècle, donc il y avait sur le consultable par tous les membres du concile de Trente, il y avait sur l'autel uniquement deux livres. Il y avait la Sainte Bible, la Vulgate, et il y avait la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Tellement cette somme était importante. Donc méditez ces phrases. Toute la première partie, la charité du Christ souffrant a surpassé la malice de ceux qui l'ont crucifié. La charité du Christ souffrant a surpassé la malice de Judas qui livre son maître. Donc la satisfaction offerte par le Christ dans sa passion a été plus grande que l'offense de Judas qui vend son maître pour de l'argent. Et donc, c'est au point que la passion du Christ a été une satisfaction suffisante et même surabondante pour les péchés de Judas. Donc, si Judas s'était jeté à genoux et avait demandé pardon pour son péché, comme saint Pierre l'a fait, Judas aurait été pardonné, il serait aujourd'hui glorieux, glorieux au ciel. Article 3. La passion du Christ a-t-elle causé notre salut par mode de sacrifice? Alors, nous allons voir un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin sur cette question. Donc le mode de sacrifice de la passion. Il cite saint Paul aux Éphésiens. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous en oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Donc le Christ s'est offert lui-même pour nous dans sa passion. Et la passion du Christ fut donc un véritable sacrifice. N'oubliez pas que pour qu'il y ait sacrifice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang de la victime. Il faut qu'il y ait mendication de la victime par le sacrificateur. Et c'est ce qu'on voit dans la Sainte Messe. Dans la Sainte Messe, il y a séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de façon non sanglante, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, étant maintenant au ciel avec un corps glorieux, ne peut plus souffrir physiquement. Et par la communion du prêtre, donc l'offrande, le corps du Christ est consommé. Donc il faut considérer en tout sacrifice celui à qui on offre, on l'offre, celui qui l'offre, ce qu'on offre et ce pour qui on offre. Et l'unique et véritable médiateur, dit saint Thomas, qui nous réconcilie avec Dieu par le sacrifice de paix, devait demeurer être un avec celui à qui il offrait ce sacrifice, faire un en lui ce pour qui il l'offrait, être le seul et le même qui offrait et ce qu'il offrait, c'est la Sainte Messe. Donc la chair du Christ est le sacrifice le plus parfait. La passion du Christ est le sacrifice le plus parfait. Voilà pourquoi, dit saint Thomas. Donc il va donner quatre raisons de la perfection de ce sacrifice. Premièrement, appartenant à la nature humaine, la chair du Christ est offerte à juste titre pour des hommes et elle est consommée par eux sacramentellement. Donc je vous ai déjà expliqué, pour qu'il y ait sacrifice de la messe, il faut qu'il y ait double consécration. Parce que cette double consécration permet une séparation sacramentelle entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y avait pas de double consécration, il n'y aurait pas de séparation sacramentelle, il y aurait présence réelle, mais il n'y aurait pas de sacrifice. Donc la chair du Christ est également offerte comme sacrifice le plus parfait, parce que cette chair est passible et mortelle, et donc se prêter à l'immolation. Troisième raison, sans péché, elle était efficace pour purifier les péchés. Et quatrième raison, étant la chair de l'offrant lui-même, elle était agréée de Dieu à cause de la charité de celui qui offrait sa chair. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et saint Thomas va citer saint Augustin. Qu'est-ce que les hommes pouvaient prendre et offrir pour eux-mêmes de plus adapté qu'une chair humaine? Quoi de plus apte à l'immolation qu'une chair humaine? Quoi d'aussi pur pour purifier les vices des mortels qu'une chair née sans la corruption de la convoitise charnelle dans un sein et d'un sein virginal? Qu'est-ce qui pouvait être offert et accepté avec plus de grâce que la chair de notre sacrifice devenue le corps de notre prêtre? Et n'oubliez pas en plus de ça que pendant la Sainte Messe, le prêtre agit in persona Christi, au nom du Christ. Article 4, encore un article bien important. Question 48, article 4, toujours dans l'Intercia Pars. La passion du Christ a-t-elle causé notre salut par mode de rachat? Voilà ce que dit saint Thomas. Il va citer saint Pierre. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent corruptible que vous avez été rachetés des vaines pratiques que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans tache et sans souillure. Et ensuite, il cite saint Paul aux Galates. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant pour nous malédiction. Or, le Christ s'est fait pour nous malédiction. Si le Christ s'est fait pour nous malédiction, c'est en souffrant pour nous sur l'arbre de la croix. Donc, il nous a rachetés véritablement par sa passion. Donc, la passion du Christ a causé notre salut par mode de rachat. Donc, saint Thomas explique, par le péché, l'homme avait contracté une double obligation. D'abord, celle de l'esclavage du péché. Celui qui pêche est esclave du péché, disait saint Jean. On est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre, dit saint Pierre. Donc parce que le démon a vaincu l'homme en l'induisant à pécher, l'homme était soumis à l'esclavage du démon. Il va falloir rompre en quelque sorte les chaînes par lesquelles le démon tenait l'homme attaché à lui. Et c'est ce qui va se passer avec la passion. Donc deuxième obligation, par le péché, à cause du péché, que l'homme avait contracté. Deuxième obligation, quant à la responsabilité de la peine, l'homme était débiteur envers la justice divine. Et c'est là aussi un esclavage. Car c'est un esclavage que de subir ce qu'on ne veut pas, alors que l'homme libre dispose de lui-même quand il veut, comme il veut. La passion du Christ a donc été une satisfaction adéquate, d'une part, et en même temps surabondante pour le péché et pour la peine due par le genre humain. Sa passion a été comme une rançon par laquelle nous avons été libérés de cette double obligation. Rançon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon nous tenait prisonnier, et il a accepté notre libération, contraint et forcé, ayant été payé en quelque sorte par notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ va payer le prix de la rançon et libérer le pécheur qui était enfermé dans la prison du démon. La satisfaction offerte pour soi ou pour autrui est comme une rançon, dit saint Thomas, par laquelle on rachète soi-même ou autrui du péché et de la peine. Si le Christ a satisfait, ce n'est évidemment pas en donnant de l'argent ou quelque chose de semblable, mais en donnant pour nous ce qui était le plus précieux, c'est-à-dire lui-même, son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est pourquoi on dit que la passion du Christ est notre rachat et notre rédemption. Il s'est fait propitiation pour nous. C'est pour ça qu'on dit que la fin première du sacrifice de la messe, c'est la fin propitiatoire. Notre Seigneur Jésus-Christ, par la passion, nous a rachetés. C'est la propitiation. Il se fait propice pour nous. Nous étions incapables d'être rachetés. Alors Dieu va nous racheter. On était incapables de se racheter par nous-mêmes. Dieu va nous racheter par le fruit de sa passion. Alors, dans la première objection importante, saint Thomas explique que l'homme appartient à Dieu. D'abord en tant qu'il est soumis à sa puissance. Et sous ce rapport, l'homme n'a jamais cessé d'appartenir à Dieu. Deuxièmement, l'homme appartient à Dieu en tant qu'il lui est uni par la charité. Donc de la première manière, l'homme étant soumis à Dieu par sa puissance, l'homme n'a jamais cessé d'être à Dieu. Mais de la deuxième manière, par l'union à Dieu par la charité, l'homme a cessé d'être uni à Dieu par le péché parce que le péché détruit la charité. C'est pourquoi, en tant qu'il a été libéré par le Christ qui satisfait en souffrant pour lui, on dit qu'il a été racheté par la passion du Christ. La passion du Christ rouvre la porte à la vertu de charité. Donc en péchant, l'homme avait contracté une obligation envers Dieu et envers le démon. Quant à la faute, il avait offensé Dieu, s'était soumis au démon en lui cédant. En raison de la faute, il n'était pas devenu l'esclave de Dieu, mais il s'était plutôt écarté de son service et il était tombé sous la servitude du démon, Dieu le permettant avec justice à cause de l'offense commise contre lui. Et quant à la peine, c'est envers Dieu que l'homme s'est lié, comme envers son souverain juge. Donc, si le démon gardait injustement sous son esclavage autant qu'il était en lui, l'homme trompé par sa ruse, et quant à la faute et quant à la peine, il était juste cependant que l'homme souffre cela, car Dieu avait permis quant à la faute, il avait prescrit quant à la peine. Voilà pourquoi la justice exigeait par rapport à Dieu que l'homme soit racheté. Dieu ne voulant pas libérer l'homme de la chaîne par laquelle il s'était uni par le démon, par le péché, sans qu'un prix soit payé pour ça. La justice demandait donc que le prix, un prix infini, soit offert pour réparer le mal infini du péché. Encore une fois, je vous conseille beaucoup de méditer tous ces textes. Ils sont en grande partie sur le polycopier. Je vous l'ai dit à partir de la page 151. Voilà, nous allons arrêter là. Encore beaucoup de choses à dire. Nous continuerons, si Dieu veut, la semaine prochaine. Question 48, article 5. Est-il propre au Christ d'être le Rédempteur ? Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.